Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, vous le savez, la France est championne de consommation en matière de médicaments. Dans le peloton de tête européen, on trouve en premier la France donc, puis vient l'Allemagne et enfin le Royaume-Uni. Ces trois pays européens consomment en moyenne pas moins de 1500 comprimés par habitant par an. Parmi les traitements les plus consommés, on retrouve les médicaments contre les maladies cardiovasculaires, les maladies traitant du système nerveux, comme pour la maladie de Parkinson ou Alzheimer, et ceux traitant de l'appareil digestif. Alors oui, les médicaments sont utiles pour contribuer à l'amélioration de notre santé, mais aujourd'hui, l'Académie nationale de pharmacie est préoccupée par les conséquences environnementales de leur utilisation. Grâce aux progrès dans l'analyse physico-chimique, et là je cite l'Académie nationale de pharmacie, la présence de traces de substances médicamenteuses a été largement établie à l'échelle mondiale, en particulier dans les eaux superficielles et souterraines, dans les eaux résiduaires, dans les boues des stations d'épuration utilisées en épandage agricole et dans les sols. Ces résidus s'ajoutent aux nombreuses substances non médicamenteuses liées aux activités humaines, également présentes dans l'environnement, telles que les pesticides, les détergents, ou les hydrocarbures ou encore les métaux. Derrière ce constat, une question sous-jacente. Ne sommes-nous pas en train de polluer notre environnement à travers notre consommation d'antibiotiques? Que se passe-t-il lorsque les pesticides antibiotiques se mélangent dans l'environnement? Enfin, à quoi ressemble réellement notre eau du robinet? Pour en discuter avec nous, deux invités, les professeurs Yves Lévy et Jean-Marie Hagenauer. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Pour vous présenter, Yves Lévy, vous êtes professeur à l'Université Paris Sud, Paris 11. Vous êtes directeur du laboratoire de santé publique environnementale, également membre de l'Académie nationale de pharmacie. Et Jean-Marie Hagenauer, que nous connaissons bien ici à Canal Académie, est président de la commission santé environnementale à l'Académie nationale de pharmacie, correspondant donc de cette académie. Vous êtes venu une première fois pour évoquer ce sujet sur Canal Académie. C'était déjà au nom donc de l'Académie nationale de pharmacie. Aujourd'hui, monsieur Hagenauer, quels sont les éléments nouveaux dans ce rapport qui a été publié en septembre 2008 et qui porte le titre « Médicaments et environnement ».
La nouveauté, c'est que le rapport est terminé et qu'il a suscité un certain nombre d'heures de travail relativement élevées. C'est un rapport qui fait quand même 105 pages et qui essaye de reprendre l'ensemble de la problématique pour proposer des recommandations qui sont destinées aux usagers, mais destinées également aux administrations ou destinées également aux agences qui s'occupent des problèmes de l'environnement.
Et c'est un rapport à l'initiative de l'Académie nationale de pharmacie ou ça vous a été commandé par le ministère de la Santé, par exemple?
Non, c'est un rapport qui est, disons, sous forme d'autosaisine de la commission santé et environnement de l'Académie nationale de pharmacie. Mais ce rapport, bien entendu, est destiné au ministère de l'Environnement, au MEDED, au ministère de la Santé, et bien entendu aux agences AFSET, AFSA, AFSEPS qui sont directement intéressées par ce problème.
Alors Yves Lévy, vous êtes aussi avec nous en studio, vous avez participé également à ce rapport avec M. Hagenauer, vous étiez une quinzaine de personnes à participer à ce rapport, c'est cela M. Hagenauer?
Tout à fait.
Je vais reprendre vos propos et j'aimerais que vous nous en disiez plus. Lorsque j'ai préparé cette émission, vous m'aviez expliqué qu'il était difficile d'être objectif sur ce sujet, médicaments et environnement. Alors on ne peut pas dire que nous allons tous mourir, il ne faut pas non plus minimiser le phénomène. La question jusqu'à présent éludée, vous me dites, ce sont les mélanges médicaments-pesticides avec les autres polluants. Est-ce que l'on a des chiffres à ce sujet, Yves Lévy?
Oui, alors justement, vous avez bien eu raison de présenter ça en introduction. N'oublions pas que les médicaments vont rejoindre le flot des autres micropolluants qu'on trouve dans nos ressources en eau. Et c'est là qu'est véritablement un des grands enjeux scientifiques, qui est de celui d'être capable d'évaluer le risque environnemental ou le risque sanitaire lié à ces mélanges. Donc il ne faut pas forcément focaliser sur une des catégories des polluants, mais bien essayer de faire l'évaluation globale de tout ce qui arrive en contact avec les animaux ou les végétaux, ou éventuellement l'homme, s'il était amené à recevoir ces médicaments ou ces mélanges de produits dans l'eau du robinet. Donc le problème des chiffres est un problème de très faibles traces. on va dans des traces qui se situent de l'ordre du nanogramme par litre pour certaines molécules, jusqu'à plusieurs dizaines de microgrammes par litre. Mais le mélange de tous ces nanogrammes par litre ou microgrammes par litre finit par réaliser des quantités de polluants qui ont des effets différents et qui, en mélange, peuvent provoquer des effets qu'on ne maîtrise pas forcément.
Alors ces effets, par exemple, vous avez des exemples précis à nous donner ?
Parmi ceux qui sont les plus médiatisés, c'est celui des hormones. Un certain nombre de pesticides, de plastifiants et d'hormones, même de médicaments hormonaux, simulent l'effet des hormones sur les récepteurs chez les animaux. Donc, on observe des effets qui sont estrogènes, c'est-à-dire qu'on voit des féminisations d'animaux dans la nature qui provoquent des troubles de la reproduction, des malformations des organes sexuels. Et ça, c'est vraiment un des éléments qui a été le plus observé un peu partout dans le monde. Mais qu'on ne peut pas attribuer uniquement aux médicaments, qu'on attribue aussi bien à des plastifiants et à des pesticides.
Donc ce sont aujourd'hui des poissons sous pilule, sous anticholestérol et...
Voilà, c'est-à-dire que ces pauvres poissons, jusque dans la mer, se trouvent exposés à tout ça. Et on l'a bien connu avec les peintures anti-fouling qu'on mettait sur les bateaux, on voyait des troubles de la reproduction. Et maintenant, on constate, parce qu'on arrive à mieux les analyser, la présence de ces médicaments, parmi lesquels, par exemple, les antibiotiques se retrouvent dans certaines ressources en eau. Et une des questions qui se pose, c'est cette pression d'antibiotiques est-elle susceptible de générer des bactéries antibiorésistantes dans l'environnement ? Ce qui, pour l'instant, est une question qui est posée.
Dans ce rapport, on peut faire les choses sous forme de tableau. Il y a déjà la différenciation entre l'eau douce et les eaux marines. Et puis, il y a également la différence entre la pollution par déjection, en fait, hein, les hommes qui vont rejeter des antibiotiques suite à leur consommation. Et puis, et également l'élevage intensif. Et d'autre part, tout ce qui est du domaine de l'industrie pharmaceutique. Vous citez quelques exemples. Parlons de l'élevage intensif pour commencer. L'élevage est donc des informations qui font réfléchir puisque les hormones, vous en parliez à l'instant Yves Lévy, on les utilise régulièrement pour obtenir une lactation permanente des chèvres productrices de fromage. Et parallèlement, vous citez les antibiotiques utilisés pour la vitesse de croissance des animaux, utilisés pour leur viande. Vous parlez des porcs, des dindons, des poulets, des pintades, enfin tout. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui. Justement, sur ces chiffres, Jean-Marie Hagenauer, qu'est-ce que l'on peut dire ? Est-ce qu'il y a une réglementation, justement, sur ces antibiotiques utilisés dans l'élevage intensif ?
Il y a une réglementation dans la mesure où il n'est pas possible en Europe, je dis bien en Europe, d'utiliser des antibiotiques qui s'avèrent efficaces en thérapeutique humaine. Ça, c'est quand même un point important pour l'Europe, parce que ça n'est pas le cas dans d'autres pays du monde, comme par exemple la Chine ou les pays en voie de développement où la réglementation est, j'allais dire, relativement inexistante. Hein. Ce qui est important dans les questions que vous soulevez, c'est la part relative, en quelque sorte, de ces sources diffuses hein, qui sont le fait de chacun de nous. Quand on prend des médicaments, eh bien, après métabolisation, ils sont éliminés dans les urines ou bien ils sont rejetés dans les fesses. Et le tout part vers les stations d'épuration, bien entendu. Hein. Ce sont les eaux usées municipales qui vont arriver dans les stations d'épuration. Et ça représente quand même la source principale de contamination des eaux. Hein. Et à côté de cette source diffuse, vous avez des sources ponctuelles liées à l'industrie de la synthèse des molécules pharmaceutiques, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique qui met en forme ces molécules pour faire des sirops, des comprimés, etc. Mais également des sources ponctuelles comme l'élevage de bovins, d'ovins, etc., qui vont d'ailleurs contaminer, bien sûr, les eaux, mais surtout les sols, en l'occurrence. Secondairement, les eaux par transfert. Et bien entendu, là aussi, il y a l'élevage piscicole. Hein. Mais l'élevage piscicole, pour l'instant, ne représente quand même pas la majorité d'utilisation, par exemple, des antibiotiques. En ce qui concerne les antibiotiques, ça représente à peine 1% de l'usage des antibiotiques. C'est beaucoup plus les porcins. Les porcins, c'est à peu près 50% de l'utilisation des antibiotiques à titre vétérinaire, j'allais dire.
Et Jean-Marie Aguenard, vous parliez des stations d'épuration. À l'heure actuelle, il n'existe pas de filtrage suffisamment performant pour stopper ces molécules.
Les stations d'épuration, enfin Yves Lévy serait mieux placé que moi pour en parler, mais les stations d'épuration n'ont pas été conçues de façon spécifique pour un type particulier de polluants.
Même à proximité des hôpitaux, Yves Lévy ? Parce que j'imagine que c'est bien sûr à proximité des hôpitaux et autres que l'on retrouve des molécules de ce type.
Les hôpitaux sont aujourd'hui obligés de traiter leurs effluents radioactifs. Donc ça, de ce côté-là, ils les gardent, ils les conservent, ils les traitent. Tout le reste part dans les égouts. Donc ce qu'on appelait jusqu'à présent le tout à l'égout, qui avait été conçu comme un tout à l'égout, ne devrait plus être le cas, puisque les stations d'épuration, comme le dit très bien Jean-Marie, ne sont pas faites pour traiter n'importe quoi. Elles étaient faites autrefois pour traiter des rejets biologiques. Et maintenant, on leur envoie des tonnes et des centaines de tonnes de produits chimiques divers. Et donc, selon les filières de traitement, on va avoir des efficacités très variables. Certaines molécules ne sont pratiquement pas éliminées, d'autres vont très bien s'accumuler dans les boues, lesquelles boues vont se retrouver ensuite dans l'environnement. Et donc, on a des efficacités très variables selon les types de molécules. Donc c'était vraiment un enjeu majeur de l'économie à venir en matière de protection des ressources en eau, qui est celui de décider ce que nous allons faire de nos égouts et de nos stations d'épuration pour traiter ces traces de micropolluants.
Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'un médicament, n'importe lequel, est 100% biodégradable ? C'est-à-dire que, est-ce qu'au final, voilà, il ne reste plus rien ?
Non, pas du tout. Donc, c'est très variable. Il y a des médicaments qui sont pratiquement excrétés sous forme inchangée. Totalement.
Donc c'est la loi de la fatalité, en d'autres termes, j'ai envie de dire.
Non, le médicament est conçu pour un soin, c'est-à-dire qu'il a ses propriétés chimiques, son efficacité métabolique. Son impact environnemental, jusqu'à il y a quelques années, n'était pas étudié. Maintenant, dans les dossiers mis sur le marché, l'impact environnemental est étudié. On va peut-être aller, dans quelques temps, sur la conception de molécules qui seront peut-être orientées pour devenir plus facilement biodégradable et moins stable. Il y a des produits de diagnostic aussi qui sont utilisés en grande quantité, par exemple pour faire des radios, des produits contrastiodés, qui eux sont très utilisés en grande quantité, qui partent directement dans les rivières et qui arrivent à franchir toutes les étapes des traitements.
Et qui sont très polluants.
Et qui sont très stables. Qui ne sont pas très toxiques, mais qui sont très stables. Et donc par définition, puisqu'ils n'étaient pas là dans l'environnement, ils sont donc devenus des polluants. Après, la question à se poser derrière, c'est sont-ils toxiques ou pas toxiques ? Mais le fait est que les rivières n'étaient pas originellement remplies de produits de contraste iodés.
Alors on parle d'antibiotiques, de médicaments anticancéreux, de produits dont vous parliez à l'instant pour faire des radios. Est-ce qu'une des solutions, ce serait d'utiliser les petites granules homéopathiques ? L'homéopathie donne cette notion un peu... Je vous vois me faire des grands yeux, Yves Lévy. Mais on a cette notion de traitement, de médecine douce et de traitement par les plantes. Alors est-ce que ce serait une solution ? Pas bien sûr pour traiter pour les cancers, bien entendu. Jean-Marie Aguenard.
Pourquoi s'arrêter au cancer ? Parce que de toute façon, les dossiers d'autorisation de mise sur le marché permettent l'utilisation de médicaments dans des conditions précisées. Ces conditions, elles concernent l'efficacité thérapeutique. Pourquoi voulez-vous donner des doses 1000 fois plus faibles qui seraient par définition inactives ? Bon, l'homéopathie, je vais me faire certainement des ennemis, mais l'homéopathie n'a pas encore prouvé son efficacité sur le plan scientifique et sur le plan épidémiologique. Le jour où l'homéopathie montrera son efficacité, on en reparlera peut-être. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a aucune évaluation scientifique de l'efficacité de l'homéopathie.
Pardon Yves Lévy, vous
souhaitez dire quelque chose ? Non, je suis tout à fait d'accord. Hein. Là, on rentre dans un débat qui est totalement différent et qui est aujourd'hui un pays comme le nôtre qui s'est donné des moyens en matière de santé publique, qui augmente son espérance de vie de 3 mois chaque année, est le résultat d'un énorme travail de diagnostic, de formation des médecins, de mise au point de médicaments efficaces. Attention, ne touchons pas à des choses qui pourraient nous faire revenir en arrière.
Jean-Marie Aguenard.
Je voulais quand même préciser, d'ailleurs, avant de parler des problèmes de pollution, il faut quand même dire que les médicaments ont montré toute leur efficacité dans le traitement des maladies. Hein? Si l'espérance de vie est passée à plus de 80 ans pour les femmes, à 78 ans pour les hommes, c'est quand même en grande partie grâce aux médicaments. Donc, il ne faut pas... J'allais dire jeter le bébé avec l'eau du bain, puisqu'on parle d'eau aussi.
Puisque nous parlons de médicaments et d'environnement, n'y a-t-il pas un lien de cause à effet avec le vieillissement de la population, où la population vieillissante a besoin de traitements, de plus de traitements, et parmi les molécules, les médicaments que l'on retrouve dans les eaux, les traitements cardiovasculaires, les traitements pour les maladies neurodégénératives, est-ce qu'il y a un lien ?
Quand on regarde les statistiques de décès, par exemple, de causes de décès, en France, eh bien, le cancer a dépassé chez les hommes les causes de décès par maladie cardiovasculaire. Hein. Donc, automatiquement, vous allez avoir une modification des rapports de ces médicaments dans les rejets, puisqu'on est là pour parler des rejets, et avec quand même des modifications relativement importantes en ce qui concerne les modalités même du traitement, parce que la plupart des cancers étaient traités au niveau de la chimiothérapie, au niveau hospitalier. Autrefois. Maintenant, de plus en plus, on a une chimiothérapie à domicile qui transforme la contamination, c'est-à-dire qui était ponctuelle à l'hôpital, en une contamination beaucoup plus diffuse et donc sur laquelle il sera beaucoup plus difficile d'agir.
Je vous propose de marquer une première pause, si vous le voulez bien, Jean-Marie Guenauer et Yves Lévy. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Retrouvez sur Canal Académie nos émissions en compagnie des académiciens professeurs au Collège de France. Le paléontologue Yves Coppens, la juriste Mireille Delmas-Marty, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie ou encore l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Quelques noms d'une longue liste dont vous pouvez télécharger librement les émissions sur canalacademie.com.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Jean-Marie Guenauer et de Yves Lévy, pour cette deuxième partie d'émission, revenons quelques instants sur la différence que je faisais, et vous m'avez corrigé au cours de cette pause, et vous avez bien raison, la différence que je faisais entre les eaux douces et les eaux marines, en pensant bien dire, en pensant bien faire, qu'il y avait une certaine dilution de ces médicaments dans les océans, dans les mers, et apparemment ce n'est pas le cas. Yves Lévy, peut-être.
Alors. Effectivement, les médicaments vont se retrouver dans les ressources en eau, des petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Tout ça se dilue à l'intérieur des fleuves et va déboucher dans tout l'ensemble de l'environnement, y compris dans la mer. Après, le problème, c'est la bioconcentration qui va se produire pour certaines molécules, pas toutes les molécules, mais certaines molécules qui peuvent, par exemple, se concentrer dans les graisses à l'intérieur de l'ensemble de la chaîne alimentaire et finir par recréer chez les poissons ou chez les oiseaux des concentrations très élevées en contaminants.
D'accord.
Donc on a une dilution dans l'eau, mais par contre une reconcentration dans la chaîne alimentaire.
C'est ce que l'on retrouve, vous disiez à l'instant, Jean-Marie Guenauer, dans la consommation des Inuits.
C'est bien connu ce phénomène de concentration dans les chaînes alimentaires marines, puisque chez les Inuits, qui sont, disons, qui ont la particularité de manger beaucoup de graisse de cétacés, hein, de baleines, phoques, etc., ben, en même temps, ils absorbent des quantités faramineuses de pesticides organochlorés, de PCB, au point qu'il est arrivé qu'il y ait des cas d'interdiction d'allaiter parce que les concentrations de ces pesticides et dérivés chlorés étaient trop élevées dans le lait des femmes. Donc c'est vrai que c'est un problème. Et la part des médicaments dans ces concentrations, bon, n'est certainement pas très très élevée par rapport à ce qu'on a observé là, mais qui bien a priori, parce que ça n'a pas été étudié.
Avant d'en venir au risque, justement, essayons d'en savoir un peu plus sur ces océans, l'eau des océans, des mers, mais également l'eau de consommation. Pour revenir sur l'eau des océans, je cite votre rapport sur la mer Méditerranée en France. Donc, des prélèvements ont été effectués dans la calanque de Cortiou, à 300 mètres du rejet d'une station d'épuration de Marseille, qui ne fait pas appel à une épuration biologique. Peut-être d'ailleurs que vous pourrez aussi nous en parler dans quelques instants, ce qu'on appelle une épuration biologique. Donc, ces prélèvements ont montré des niveaux de concentration particulièrement élevés pour l'aspirine, le diclofénac, le naproxène, alors c'est des noms un peu compliqués, l'ibuprofène, plus facile, et la caféine également, et le diazépam qui doit être un anxiolytique, je crois. Ce sont des taux anormalement forts, j'imagine, mais quel est le seuil au-delà duquel on peut dire que les taux sont anormalement élevés ?
Moi, j'aimerais bien vous le dire, parce qu'actuellement, les relations dose-effet font l'objet d'études, mais ne sont pas encore bien connues. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un taux maximum pour un produit. Alors, c'est toujours la même chose. Quand vous avez plusieurs produits de la même classe de médicaments, il y a toutes les chances pour que les effets soient au minimum additifs, voire qu'il y ait une potentialisation. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça ne fait pas 2, mais ça fait 3 ou 4. Hein. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus. Là, je crois qu'on est quand même dans un cas un petit peu particulier de rejet pratiquement sans épuration. Hein.
Donc,
Oui, tout à fait. Là, on se met à 300 mètres de rejet d'une station d'épuration, on va forcément trouver des tas de choses. Après, la différence va venir de l'efficacité du traitement d'épuration qui est mis en place.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'épuration biologique ?
Alors, de l'épuration biologique, ça consiste à demander aux bactéries de l'environnement de bien vouloir dégrader ce que nous n'avons pas pu dégrader dans notre corps humain ou qu'on a rejeté dans nos égouts. Donc, on fait passer l'eau dans des bassins dans lesquels se trouve une biomasse bactérienne naturelle qu'on va stimuler en donnant de l'oxygène et en passant parfois justement en phase sans oxygène, de manière à éliminer toutes les pollutions azotées, carbonées et phosphorées. Global. Là-dedans, certaines molécules vont être tout à fait biodégradées, se transformer en gaz carbonique, et d'autres vont avoir beaucoup plus de mal à être dégradées. Tout dépend de l'efficacité des bactéries à consommer ces molécules.
Alors, en regardant ces résultats, caféine, ibuprofène, aspirine, quels sont les risques ? C'est un constat, mais ensuite,
c'est vraiment une des questions les plus importantes, puisque toutes les décisions qu'on doit prendre derrière ces enjeux financiers, économiques, sanitaires, sont justement basés sur l'analyse du risque. Et c'est là qu'arrive toute la difficulté, qui est de dire par rapport à quel risque voulons-nous travailler. Le risque sociétal, par exemple, à la base, consiste à dire « je ne veux pas de médicaments dans l'environnement ». Mon environnement, il était propre avant que j'arrive, avant que l'homme arrive sur la planète, je veux qu'il redevienne propre. Donc à partir de là, le seuil, il est à zéro. C'est-à-dire que le risque sociétal n'admet pas qu'on trouve des résidus de médicaments. Si on prend un risque écotoxicologique, par exemple, les pauvres poissons qui ont l'habitude de nicher à proximité des rejets de stations d'épuration vont avoir des doses de médicaments, mais aussi d'autres polluants qui sont importants. Donc là, on va avoir un impact sur les capacités de reproduction, la dégradation de la vie animale de ce côté-là. Si on prend la situation vis-à-vis de l'homme, il faut savoir si l'homme est exposé ou pas à ces molécules. Et donc, arrive à ce niveau-là la nécessité de faire des études pour savoir si ces molécules franchissent les filières d'eau potable. C'est-à-dire, est-ce qu'on va en retrouver dans l'eau potable ?
Dans l'eau de consommation, oui.
Voilà. Et donc, il commence à y avoir des rapports publiés ces derniers temps qui montrent que dans un certain nombre de villes américaines, on a trouvé donc des résidus de médicaments dans l'eau potable. Et dernièrement, le ministère de la Santé, à travers les DAS en France, a fait le même constat dans certaines ressources en eau en France. Donc on peut dire que dans un certain nombre de pays dans le monde, des auteurs qui ont recherché la présence de ces médicaments dans de l'eau potable en ont trouvé. Mais à des doses extrêmement faibles, qui sont des doses qui ne devraient pas induire d'effets biologiques. Et là, on retombe sur le problème sociétal qui est, acceptons-nous d'avoir dans un verre d'eau une molécule dont on nous dit qu'elle est parfaitement non toxique pour l'individu, mais qui ne devrait pas être là. Vous voyez, on retrouve ça dans beaucoup d'autres micropolluants. C'est un micro-nanopolluant, on se retrouve à des très faibles concentrations qui ne peuvent normalement sans doute pas induire d'effet, sauf peut-être pour des hormones, des anticancéreux, donc ça va dépendre des molécules. Mais par contre, le principe veut que le verre d'eau ne contienne pas ces molécules.
Jean-Marie Hagenauer.
Je crois qu'en ce qui concerne cette évaluation des risques pour l'homme, il y a une évaluation qui avait été faite qui consiste à considérer sur la base des concentrations de médicaments dans l'eau du robinet. Je rappelle, c'est quand même de l'ordre du nanogramme par litre, hein, ce ne sont pas des concentrations considérables. Sur cette base-là, donc à raison de 2 litres par jour et pendant 70 ans, pour la quasi-totalité des médicaments, à 7 ou 8 près, on arrive à moins d'une dose thérapeutique. Ça veut dire que, par exemple, quand on prend un comprimé, eh bien, ce comprimé, c'est moins que ce que l'on absorbera par l'eau du robinet pendant 70 ans en buvant 2 litres d'eau de son robinet. Donc, on peut considérer que les médicaments que l'on absorberait éventuellement par cette voie de la consommation d'eau de robinet, ces médicaments ne présentent pas un danger considérable. Il y a d'autres évaluations, si vous voulez, qui ont été faites, parce que il y a quand même, si vous voulez, 3 catégories de médicaments qui devraient faire l'objet d'une attention particulière quand même. Ce sont les anticancéreux, ce sont les dérivés hormonaux et les antibiotiques. Parce que la présence d'antibiotiques dans l'environnement, cette présence d'antibiotiques peut être, mais c'est ce que disait Yves Lévy au début, éventuellement être rattachée à des phénomènes d'antibiorésistance. Et cette antibiorésistance, elle présente quand même des dangers pour l'homme, parce que se priver de médicaments dont on a besoin pour traiter des infections, eh bien, c'est créer, bien entendu, une situation de risque. Quand on parle de risque pour l'homme, le risque peut exister. Et ce risque, eh bien, il a déjà été encouru dans d'autres pays. Ça a déjà été mis en évidence.
Et justement, je voulais aborder cette question-là, de savoir si la nature n'allait-elle pas tout simplement s'adapter à ces éléments, ces résidus que l'on trouve dans l'eau, mais elle s'adapte, mais également tous les résistants, tous les...
L'antibiorésistance, d'abord, c'est un phénomène naturel. Oui. Il faut quand même remettre les choses aussi à leur place. Mais à partir du moment où on a besoin d'antibiotiques pour le traitement de maladies humaines, il est quand même préférable de ne pas retrouver de petites doses d'antibiotiques qui engendreraient des phénomènes d'antibiorésistance et surtout de sélection de bactéries résistantes qui arriveraient à l'homme. Or, on sait que, par exemple, des antibiotiques qui sont présents dans l'eau suite, par exemple, à des traitements ou à des alimentations qui contiennent de petites doses d'antibiotiques dans pisciculture, eh bien, là, on a pu mettre en évidence des sélections de bactéries et les déterminants de cette antibiorésistance peuvent très bien passer du domaine aqueux au domaine terrestre et du domaine terrestre à l'homme. Donc, cette chaîne d'antibiorésistance ou de transfert de cette antibiorésistance, cette chaîne, elle existe. Et donc, il y a au bout du compte un risque pour l'homme. Et ça, il faut le surveiller.
Mais là, on est dans le domaine de la fiction. Vous parlez au conditionnel?
Non, parce que quand on prend, par exemple, les personnels qui travaillent dans l'industrie de la pisciculture, eh bien, eux ont des véritables problèmes d'antibiorésistance. Ça, c'est montré.
On raisonne là dans des pays européens riches qui se sont donné les moyens de mettre en place des systèmes de protection, de distribution d'eau corrects. N'oublions pas l'ensemble des pays en voie de développement dans lesquels on utilise aussi des médicaments où il n'y a pas de station d'épuration. Beaucoup de pays dans le monde où il n'y a pas de station d'épuration et tout ça part directement dans l'environnement. Donc, vous voyez, cette graduation des risques représente des enjeux économiques et sociétaux majeurs, pas uniquement pour les médicaments, pour l'ensemble de tout ce que nous, populations humaines, générons comme déchets dans nos égouts et qui autrefois étaient déversés au loin et servaient d'engrais et qui maintenant deviennent des pollutions.
Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut encadrer les industries pharmaceutiques, par exemple, les forcer à utiliser des molécules qui vont peut-être un peu plus facilement se dégrader?
Alors, il y a déjà actuellement dans la réglementation internationale une nécessité pour un producteur de médicaments de développer un volet d'études de l'impact de son produit sur l'environnement, qui présentera dans son dossier d'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, de ce côté-là, la réglementation a été développée pour les médicaments vétérinaires, pour les médicaments humains, ça a pris un peu plus de temps, mais maintenant les choses se sont mises en place. Deuxièmement, l'industriel, lui, produit, donc il y a des rejets. Les industries totalement propres n'existent pas. Donc de ce côté-là, les industriels doivent faire attention à leurs rejets qui vont disperser dans les égouts ou dans l'environnement aussi.
Faire attention, ça veut dire
Ça veut dire mettre en place, d'abord faire des analyses, mettre en place des systèmes de traitement, des mini-stations d'épuration qui sont installées à l'intérieur de l'unité. Ça évitera à ce moment-là de rejeter ça. Après, vous avez les déchets des médicaments non utilisés. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut éventuellement avoir chez nous en trop, qu'on rapporte normalement chez son pharmacien, et ensuite le réseau de récupération dans les pays qui en possèdent un, envoie tout ça à l'incinération. Maintenant, si les gens ont le malheur de jeter leurs médicaments usagés dans les toilettes ou de les jeter dans la poubelle et que ça part dans une décharge, à ce moment-là, la pluie sur les décharges peut répandre ça dans l'environnement. Donc c'est un peu le travail de tout le monde aussi, de tous les citoyens, de faire attention de ne pas déverser n'importe quoi, n'importe où.
Dans ce rapport, justement, vous parlez de ces médicaments qui ne sont pas utilisés, et non pas du recyclage, mais de l'incinération. Mais après, le problème est toujours le même. Il y a des cendres, il y a de la fumée.
D'abord, il faut savoir ce que représentent les rejets de ces médicaments. Alors là, il y avait une étude anglaise qui était intéressante dans le sud-est de l'Angleterre. Il y a une étude qui a été menée pour connaître le comportement de la population par rapport aux médicaments prescrits ou achetés librement. Et en ce qui concerne le sort de ces médicaments non utilisés, aussi bien le report dans les pharmacies que le rejet dans les toilettes, dans les égouts, etc. Et sur cette base-là, pour certains médicaments, eh bien, il a été montré que pour 100 boîtes, parce que là, l'unité utilisée, c'était les boîtes, eh bien, en tenant compte, bien entendu, aussi de l'efficacité des stations d'épuration, on retrouvait dans les eaux de surface l'équivalent de 2 boîtes. C'est-à-dire qu'il y a 2% des médicaments, de ce médicament utilisé, que l'on retrouvait dans les eaux de surface. Donc, vous voyez, c'est un moyen qui est relativement simple, hein, par questionnement de la population. Donc ça, ça représente quand même un risque, hein, qui n'est pas négligeable. 2% des médicaments utilisés, ça représente aussi des sommes relativement élevées. Maintenant, en ce qui concerne l'incinération, par rapport aux médicaments non utilisés, à partir du moment où ils sont adressés aux pharmaciens, tout le monde ne le fait pas, hein, quand c'est jeté dans la poubelle, si on participe, les municipalités, à des systèmes d'incinération de ces ordures, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des études, par exemple, qui ont été menées par l'INERIS, ici en France, sur des anticancéreux. Parce que l'OMS proposait d'incinérer les anticancéreux à des températures entre 1000 et 1200 degrés. Et il y a très peu de stations d'incinération qui permettent d'obtenir des températures comme celle-là. Donc, à des fins pratiques, l'INERIS a fait des essais à 850 degrés, qui est la température la plus habituelle, si vous voulez, des usines d'incinération. Et ils se sont aperçus que les produits anticancéreux étaient entièrement détruits et que la mutagénicité des fumées n'était absolument pas modifiée avec la présence de ces anticancéreux qui sont complètement détruits. Donc, je crois qu'on peut dire que l'on peut incinérer, et j'irais même, il faut incinérer. Parce qu'à partir du moment où les médicaments ne sont pas incinérés, qui sont mis soit dans des décharges publiques, avec les risques de diffusion sur les sols et ensuite vers les nappes, en fonction des médicaments, donc de contamination des eaux, eh bien, l'incinération est certainement la meilleure des solutions. Et j'irais même, par rapport au système Cyclamed, il est devenu interdit d'utiliser les médicaments non utilisés à des fins humanitaires. Parce qu'on transporte les problèmes que l'on avait ou que l'on pourrait avoir, on les transporte dans les pays en voie de développement.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause. On se retrouve après pour la fin de notre émission. Nous aborderons bien sûr les recommandations de l'Académie de pharmacie et puis, bien sûr, donc toujours dans le même état d'esprit, les mesures à prendre. À tout de suite.
Canal Académie.
Notre émission en compagnie de Jean-Marie Hagenauer et de Yves Lévy. Dans cette dernière partie, nous allons bien sûr aborder les recommandations de l'Académie nationale de pharmacie consacrées aux médicaments et à l'environnement et des mesures à prendre. Je m'adresse à vous, Jean-Marie Hagenauer, puisque c'est vous qui avez été, qui avez chapeauté le rapporteur de ce rapport. Ces mesures, quelles sont-elles? Quelles sont vos recommandations dans les grandes lignes?
Ce ne sont pas mes recommandations, mais les recommandations de la Commission. Et je dirais même, puisque c'est la qualité de l'Académie de pharmacie, on représente toutes les tendances professionnelles de la pharmacie. Donc la première de ces recommandations, elle concerne la limitation et le contrôle des rejets. Il faut en effet agir à la source, c'est-à-dire qu'il faut d'abord optimiser la fabrication, bien sûr, des molécules ou optimiser en tout cas, non pas seulement la fabrication des molécules, mais également les modes opératoires de la chimie. Hein,
mais ça, on peut le faire à l'heure actuelle
oui,
ou
tout
peut-être
à fait
que ce n'est pas
encore vous savez, c'est une chimie de pointe. Hein, et les médicaments coûtent suffisamment cher. Il faut savoir que pour avoir un médicament actif sur le marché, il faut en moyenne 5000 molécules synthétisées, testées. Hein. Donc le coût est suffisamment important pour que l'industrie ne cherche pas à en rejeter une partie dans l'environnement. Hein. Donc, d'autre part, ces industries sont soumises aux installations classées, hein, à la législation des installations classées. Donc là, il n'y a pas de problème majeur. Néanmoins, il faut quand même que ces industries, les chimies pharmaceutiques, utilisent toutes les technologies qui permettent de protéger l'environnement.
Alors que faire des produits anticancéreux dont vous nous avez parlé, Yves Lévy peut-être ?
C'est une question que se pose l'Institut national du cancer et qui a confié une étude à l'AFSET, à l'Agence française de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail, avec qui nous avons collaboré avec un laboratoire de l'Université de Poitiers. Et on a été amené justement à faire des analyses dans des rejets d'établissements hospitaliers spécialisés en oncologie. Et effectivement, on a mis en évidence le rejet d'un certain nombre de ces produits, bien entendu à la sortie de l'hôpital, mais tout le long du réseau d'assainissement jusqu'à la station d'épuration et même parfois sortant dans les rejets dans la rivière. Donc ça veut dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les établissements de soins qui sont des centres où on pratique ces soins à base de substances anticancéreuses. Mais de plus en plus, on essaye de favoriser le retour à domicile des patients qui vont se traiter chez eux. Donc on ne peut pas dire que l'établissement de soins soit le seul site. Néanmoins, c'est quand même un endroit où on peut faire quelque chose. Et donc dans ces cas-là, on peut très bien imaginer, et des expériences ont été faites dans le monde, d'utiliser des toilettes qui séparent les liquides des solides et qui ensuite récupèrent les liquides, les traitent soit par des procédés de membrane, d'osmose ou par d'autres types de procédés pour concentrer les pollutions et ensuite les détruire par incinération.
Il y a des hôpitaux déjà qui sont équipés de ce système-là ?
Il y a eu au moins des expériences de tenter, oui, dans le monde. Après, ça a un coût. Le problème, c'est le coût de tout cela. Mais technologiquement, on doit pouvoir réussir à le faire correctement. Après, c'est un coût à accepter pour l'ensemble de la société. Donc, il faut bien déterminer. C'est ce que nous faisons actuellement dans notre laboratoire, dans le cadre d'une étude qui s'appelle Mediflu, où on essaye d'évaluer la part des rejets des établissements de soins par rapport à l'ensemble de tout ce que rejette la population dans une ville. C'est-à-dire que globalement, les spécialistes du domaine estiment que les établissements de soins contribuent à 20% à peu près à la pollution. Donc si on traite dans les hôpitaux, on traitera peut-être que 20 ou 30% de la pollution. Il restera encore le reste, qui va ensuite aller vers la station d'épuration de la ville.
C'est également équiper les stations d'épuration. On parlait de l'exemple de Marseille avec version biologique.
Oui, c'est ça. Il y a un certain nombre de traitements dont on a bien dit tout à l'heure qu'ils étaient variables, efficacité variable selon les molécules. Donc, dans ces unités, on se pose maintenant la question de savoir jusqu'où aller. Faut-il aller jusqu'à fabriquer une usine de traitement des eaux d'égout qui ressemblerait presque à une usine d'eau potable ? C'est un véritable enjeu. C'est pour ça que je parlais d'enjeu sociétal. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que on connaît bien maintenant ce déversement de produits, leur transfert, la contamination, les effets écotoxicologiques. Tout le monde en a pris conscience, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il y a quelques années, il y a 6 ou 7 ans, on n'était que quelques spécialistes à en parler. Donc maintenant, il faut mettre en place des actions de gestion. On ne va pas attendre que la toxicologie, peut-être, mette au point toutes les dernières évaluations. Donc ces actions de gestion consistent à décider si on va transformer les stations d'épuration presque en usine d'eau potable, ce qui coûterait très cher à tout le monde. Ou alors, limiter les doses, donc mettre en place toute une série d'actions préventives en amont, pour éviter que ces doses soient trop importantes.
Mais on vous entend, on voit que vous défendez votre sujet et c'est normal, c'est très intéressant. Mais comment vous expliquez que, ou alors peut-être que c'est moi qui me trompe, mais qu'il n'y a pas forcément d'écho, ce n'est pas forcément un sujet aussi public que le réchauffement du climat ou la déforestation de l'Amazonie. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas forcément un relais médiatique ? Est-ce que c'est parce que les gens sont frileux à ce sujet ?
Non, c'est parce que le médicament est quand même considéré comme positif dans son utilisation. Et là, on
évalue. Donc, toute critique est
malvenue ? C'est-à-dire qu'il est très positif par rapport à l'amélioration de la santé et il peut être un peu négatif par rapport à ses rejets environnementaux si on n'y fait pas attention. Donc, quand on fait la balance, il est évident que ça va toujours en faveur des effets positifs. pour le médicament. Il ne faut quand même pas l'oublier. Le médicament, il sert quand même à quelque chose. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a des rejets dans l'environnement que l'on va jeter le médicament de ses utilisations. Ce serait tout à fait stupide. Hein. Par contre, il est certain qu'il y a, au niveau de la sensibilisation sur ce sujet, un défaut de communication par rapport à la population générale et par rapport également, on parlait tout à l'heure, de sources ponctuelles, hein, y compris par rapport à ces sources ponctuelles que sont les établissements de soins, les centres piscicoles, etc. Hein,
mais
ou
on
les grands
sent,
élevages.
On sent une certaine frilosité, alors peut-être que c'est moi qui me trompe, mais on sent une certaine frilosité de la part des instances. Non, écoutez,
le rapport, il date du mois de septembre. On ne peut pas déjà avoir la révolution sur ce problème au début du mois de novembre.
Mais les effets sont connus depuis longtemps. Il y a ce rapport, mais des études existent déjà depuis de nombreuses années.
L'avantage de ce rapport, si vous voulez, c'est qu'il synthétise l'ensemble de la problématique. Enfin, du moins, il essaye de synthétiser l'ensemble de la problématique. Et à l'heure actuelle, il y a quand même quelques équipes qui ont été sensibilisées en France, puisqu'il y a des équipes qui font de la recherche actuellement en France, que ce soit au CEMAGREF, que ce soit dans les facultés de pharmacie ou dans d'autres établissements. Et bien entendu, cette recherche, elle reste un peu local. Il y a eu récemment au niveau du ministère de la Santé et de la DGS une journée sur ce problème des résidus de médicaments dans l'eau. Donc ça commence quand même à bouger. Hein, il ne faut pas dire qu'on est dans l'ignorance totale de ce sujet.
Je parlais du grand public et de
le grand public,
voilà,
oui.
Yves Lévy,
hein,
sur ce sujet.
Non, ce n'est pas tout à fait une frilosité. Bon, le grand public n'est pas forcément au courant parce que le sujet n'est pas forcément non plus très médiatisé. Le fait qu'on en parle aujourd'hui est très intéressant pour ça. Aux États-Unis, ça a beaucoup diffusé. La Associated Press a fait une étude aux États-Unis et a diffusé ça. Toutes les agences de presse ont repris l'information. Donc je crois que les citoyens ont été pas mal informés.
En Allemagne,
ça a fait aussi une source de beaucoup d'informations, en Australie. Mais le public se dit, est-ce que les spécialistes ont pris en main le problème ou pas ? Quand ils ont confiance sur le fait que les spécialistes ont pris en main le problème, à ce moment-là, ils sont un petit peu rassurés. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, quand on a voulu faire cette journée le 1er octobre au ministère de la Santé, c'était pour faire un point, pour bien présenter les choses et pour éviter que les gens ne racontent pas un peu n'importe quoi. Donc, la frilosité dont vous parlez, on la sent en général sur les problématiques liées à la contamination des ressources en eau. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'en France, tout va bien. L'eau est bonne.
Il ne faut surtout pas inquiéter.
Je ne sais pas, il y a une légère tendance à dire qu'on est un petit peu en dehors du monde, que nous en France, toutes nos ressources en eau ne sont finalement pas si de mauvaise qualité. Et il y a quelques temps, on a découvert une énorme pollution du Rhône par des PCB. Ça faisait 15 ans que tout le monde le savait. Je dis 15 ans, c'est peut-être même 20 ans.
Mais on l'a quand même découvert.
Alors, d'un seul coup, on a redécouvert les PCB, tout le monde s'est déplacé, on a fait un plan PCB. Enfin, c'est très bien de mettre en place des choses, mais la science l'avait déjà montré, c'était publié. C'est dommage qu'on ne s'en soit pas intéressé un petit peu plus tôt. Là, pour ce problème des médicaments, c'est pareil. Ça fait des années qu'on a commencé à en parler. Il a fallu qu'il y ait des pressions par d'autres pays à côté pour que d'un seul coup, on prenne en compte. Aujourd'hui, le Grenelle de l'environnement en a directement parlé. Il ne faut pas que cet effet balancier fasse que d'un seul coup, on ne parle plus des pesticides, par exemple, ou qu'on oublie les PCB ou d'autres points comme ça. Il faut éviter cet effet balancier. Il faut que les choses se construisent avec de l'expertise pour aboutir à des tableaux de bord très précis qui permettent aux décideurs de prendre leurs actions.
Alors, vous parlez des États-Unis, vous parlez de l'Allemagne. Qu'en est-il des pays en voie de développement ? Vous en avez parlé au cours de cette émission. Est-ce que, justement, ils sont concernés, et encore plus concernés, par ce problème de pollution ?
Ils sont tout aussi concernés que nous. Là où ça devient plus grave, c'est le manque de stations d'épuration qui fait qu'à ce moment-là, on n'a même pas cette espèce de filtre qui protégerait un peu l'environnement. Donc s'il y a une absence de stations d'épuration et qu'ensuite les usines de production d'eau potable sont en mauvais état ou mal entretenues ou n'existent pas, ou même que les gens utilisent directement les eaux des rivières pour s'alimenter, comme ça arrive dans beaucoup de pays dans le monde, là, ça devient un véritable problème. Donc, on a effectivement une graduation des dangers qui est la même que pour tous les autres contaminants, pesticides ou autres.
Jean-Marie Aguenner.
Il faut quand même préciser que la consommation de médicaments dans les pays en voie de développement est relativement faible par rapport à la consommation de l'Amérique du Nord, de l'Europe et du Japon, qui représentent 80% de la consommation de médicaments du monde. Donc ils ont déjà cette défaveur, cette malchance de ne pas disposer de médicaments en quantité suffisante. Néanmoins, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est l'absence de régulation, l'absence de réglementation dans la plupart de ces pays-là, surtout par rapport aux problèmes environnementaux. Ou s'il y a des réglementations, elles ne font pas l'objet de contrôle. Et c'est vrai que la situation de certains pays en voie de développement sur le plan environnemental est parfois catastrophique. Et en ce qui concerne les médicaments, j'y faisais allusion tout à l'heure, l'utilisation d'antibiotiques, par exemple, dans les élevages ou par exemple en pisciculture, parce qu'il y a quand même des productions importantes de poissons industriels dans ces pays-là, eh bien, utilise parfois des antibiotiques qui sont utiles dans le traitement des maladies humaines. Et là, il peut y avoir de véritables catastrophes avec des sélections de bactéries antibiorésistantes et des difficultés après à traiter les sujets qui ont été contaminés.
Pour terminer, puisque nous arrivons en plus au terme de notre émission, mais justement sur cette question-là, est-ce que nous ne pourrions pas arriver à terme à des médicaments, c'est-à-dire ce poisson dans lequel on administrerait un antibiotique qui soit utile à l'homme par la suite lorsqu'il va manger ce poisson, par exemple ?
L'antibiotique n'est certainement pas le meilleur exemple de ce que l'on peut éventuellement suggérer. D'autant plus qu'il a été démontré que les poissons pouvaient accumuler certains médicaments, et en particulier les hormones. Donc je vois bien que vous utilisiez le poisson pour les antibiotiques, mais faut savoir que 80% des hormones qui arrivent par l'eau, en quelque sorte, ou les produits de l'eau, arrivent par les poissons. En ce qui concerne les hormones. Donc on arrive à une incohérence.
Et il faut faire très attention de se prémunir des choses nouvelles qui arrivent aussi, de prendre en compte dès le début de la conception les problèmes environnementaux.
C'est le principe de précaution ?
C'est le principe, non, de prévention, c'est-à-dire je développe un produit à base de nanotechnologie, par exemple, dont on parle beaucoup, de nanoparticules. Donc aujourd'hui, on développe les produits, on s'inquiète de la toxicité après. Prenons les choses dans le sens inverse. Au moment du développement, prenons en compte aussi les risques environnementaux et à ce moment-là, on peut améliorer la situation. En Suède, les Suédois ont carrément mis un espèce de label environnemental sur le médicament de manière à ce que les médecins prescripteurs puissent choisir entre un médicament ou un autre en fonction de son risque environnemental. Vous voyez, il y a tout un développement autour de tout ça qui fait qu'on ne doit pas nuire à la santé publique, c'est-à-dire qu'on doit continuer à maintenir notre augmentation d'espérance de vie tout en prenant en compte les problèmes environnementaux pour éviter de dégrader tout ça.
Eh bien, je vous remercie Yves Lévy, Jean-Marie Aguenauer de nous avoir donné tous ces détails. Je rappelle le titre de ce rapport, Médicaments et environnement, qui est donc sorti en septembre 2008, un rapport réalisé par l'Académie nationale de pharmacie que l'on retrouve sur Internet. Merci de nous avoir suivis et bientôt pour de prochaines émissions. Au revoir.